Alors, nous sommes ce matin avec Thomas Munier.
Salut.
Avec Vivien Féasson.
Hello.
Et avec Steve J.
Salut.
Alors, de quel sujet allons-nous parler aujourd'hui, chers amis?
Alors, le sujet, c'était comment un univers engendre des jeux. Des jeux de rôle, hein, parce que bon, le reste, on s'en fout. Hein.
Toujours pas de...
Bon, ça, on ne parlera pas de Molky. Désolé pour ceux que ça intéresse.
Ok. Eh bien, écoute, Vivien.
Oui.
Alors, chers amis, est-ce qu'on laisse Thomas nous présenter son plan formidable? Parce que, comme d'habitude, il a beaucoup, beaucoup travaillé sur le sujet.
Ah, ben, c'est mon sujet, son plan, hein, pour le coup. Donc, autant lui laisser la primeur.
Très bien. Alors, je te propose, Thomas, de commencer à présenter le sujet. Et ensuite, nous, on interviendra pour dire des bêtises.
Alors, le sujet, en fait, c'est... on va parler des univers imaginaires qu'on utilise pour faire du jeu de rôle. Et le sujet, en fait, notamment qui justifie la présence de Vivien et la mienne, en fait... C'est, on se rend compte qu'il y a des univers de jeux de rôle qui vont donner naissance à une base de jeux de rôle, un jeu quoi. Et il y a des univers qui vont en fait, pour se déployer, vont engendrer plusieurs jeux. Et l'idée c'est d'analyser en fait bah, le pourquoi et le comment de ce phénomène quoi. Pourquoi autant de dispersion, tout simplement.
Exactement, donc on va parler à la fois des univers qui prêtent le flanc entre guillemets à plusieurs jeux, mais aussi des mêmes jeux qui évolue au cours du temps.
Et en même temps, il y a de comment un univers fait jeu, en fait.
Et peut-être aussi des jeux avec plusieurs univers.
Et puis, c'est pas dans le plan, ça.
C'est la page, en fait.
Tu sors, je dis. Bah, retourne dans ton placard, Imer.
On va aussi parler des multivers.
Un multijeu.
Stop. On dirait un Dragon Play dans ma tête.
Non, mais figure-toi qu'on va en parler des multivers. J'y viendrai en temps voulu, mais c'est fait.
Très bien. On va essayer de se concentrer et de faire quelque chose d'audible, à défaut d'être intéressant.
Bah, la question, c'était... ouais. Moi, j'expliquais pourquoi ça m'intéressait. Ça m'intéressait en tant qu'auteur de niveau, bah, puisque du coup, je suis un peu parti sur cette idée-là. Au début, j'avais un univers, et puis ça a donné plusieurs jeux, quoi. Mm-hmm. Et bah, c'était juste... ma première question, c'était... vous, pourquoi... Enfin, ça se trouve, vous allez juste me dire, j'ai vu la lumière, je suis rentré, mais... pourquoi le sujet vous intéresse
Pourquoi le sujet m'intéresse moi? Y a plusieurs éléments, j'arrive à devenir sérieux un petit peu. D'abord, il y a une question qu'on abordera plus tard, c'est que je me demande si, en abordant un univers par plusieurs angles d'attaque, donc par plusieurs jeux, on ne peut pas réussir à concilier les avancées forgiennes et le jeu de rôle traditionnel. Donc ça, c'est quelque chose dont on parlera plus tard, qui m'intéresse vraiment sur le sujet. Les autres aspects qui m'intéressent beaucoup sur le sujet, c'est que j'ai commencé le jeu de rôle à travers des univers comme Donjons & Dragons, Star Wars, etc. Et je suis arrivé rapidement sur l'époque où sont sortis tous les jeux White Wolf du Monde des Ténèbres. Et c'était typiquement, exactement, l'angle d'attaque de ces univers. C'est-à-dire qu'on avait un univers, le Monde des Ténèbres, le premier jeu à sortir, c'est Vampire. On attend l'année suivante où sort Werewolf, on attend l'année suivante où sort Mage, on attend l'année suivante où sort Wraith, puis Changeling. Pour avoir le...
Plus 4, c'est un mascarade.
Non, c'est pas dans le même univers du tout, ça n'a rien à voir. Je sais que c'était un troll, mais... Bref. Et l'idée, c'est que c'est à chaque fois qu'on avait un nouveau jeu qui était introduit dans cet univers, ça nous permettait d'éclairer d'autres parties de l'univers, ça permettait de le complexifier, et d'aller chercher plus profond, d'augmenter les thématiques qu'on pouvait aborder, etc. Ce qui a généré, parce qu'après il y a eu une débauche totale de suppléments sur le sujet, des incohérences assez fortes au niveau de... comment dire, de la métafiction de cet univers, y compris des incohérences au niveau de sa métaphysique, de sa cosmologie, etc., etc. Mais ce qui était justement intéressant, puisque ça donnait de la matière pour pouvoir utiliser cet univers-là, quoi. Donc voilà, moi, les deux intérêts que j'ai, c'est ça me renvoie à la façon dont j'ai découvert le jeu de rôle, parce que j'ai vraiment... Bon, j'avais commencé à jouer avant, mais la vraie explosion du jeu pour moi, c'était cette époque-là. Et c'est qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui? Est-ce qu'on n'a pas là des clés pour réussir à faire des jeux intéressants et pour pouvoir continuer à exploiter des univers vastes, riches, avec des jeux qui fonctionnent mieux et qui ont peut-être besoin de moins d'intervention et de réglages au niveau de la table que les jeux traditionnels qu'on a l'habitude de jouer. Voilà. qui vient.
Moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément et à plusieurs titres, on va dire. En qualité de joueur, bien sûr, comment m'approprier l'univers, comment justement le faire mien et pas juste être une espèce d'acteur extérieur permanent des choses. En tant que meneur de jeu aussi, puisque je suis celui qui va lire le livre, qui aura toutes les informations et devra les transmettre finalement aux joueurs, et ce en assez peu de temps finalement, parfois. Et les problématiques que ça pose dès lors qu'on sort du domaine de l'exploration ou de la quête, mais on en reparlera, parce que le but évidemment n'est pas de faire le podcast dès le départ, juste de faire un vague aperçu. Et évidemment, bien sûr, en tant qu'auteur, quel type d'univers je vais utiliser? Est-ce que je vais plutôt partir sur un univers extrêmement simple et laisser les gens s'en emparer et mettre ce qu'ils veulent, au risque parfois d'être accusé finalement de laisser le sale boulot, on va dire, aux meneurs ou aux joueurs? Est-ce que je fais au contraire un univers relativement développé? Et dans ce cas, quels outils je donne en fait aux meneurs de jeu et aux joueurs pour se l'approprier plus facilement, autrement qu'en faisant ce qu'on fait depuis l'aube du jeu de rôle, c'est-à-dire une encyclopédie de 200 pages à charge aux meneurs de jeu de la lire tout seul, et en plus truffé de secrets, ce qui fait que les joueurs ne vont pas la lire de toute manière parce qu'ils n'ont pas le droit, ou parce qu'ils n'en ont pas envie et qu'ils n'ont pas le temps. Voilà en gros mon triple positionnement sur le sujet.
Alors voilà pourquoi en tout cas ce sujet résonne pour nous. Est-ce que toi Thomas, tu as des éléments à ajouter dont on n'a pas parlé par exemple?
Non, j'avais envie de passer à la première question, du coup, c'était...
Passons.
Parce qu'on va encore une fois beaucoup parler d'auteurs, quoi. Un petit peu de MJ, mais surtout beaucoup d'auteurs à mon avis. Et du coup, avant, il y avait une question qui avait été posée en préparation, c'était... quelle est la position de la joueuse, c'est-à-dire comment un univers de jeu de rôle peut l'intéresser en fait, qu'est-ce qu'elle cherche à y faire, quoi. Et ce qui peut du coup après justifier effectivement les réponses que l'auteur peut donner, notamment en faisant plusieurs jeux avec un même univers. Ainsi.
Alors ma réponse, du coup c'est en tant que juste une joueuse, hein, mais c'est dans un univers, moi j'attends de moi qu'il mette en mouvement mon imagination en fait, qu'il fasse vibrer quelque chose, qu'il enclenche une machine, que ce soit l'étincelle de départ en fait, qui ensuite va me permettre à moi d'être créative dans cet univers-là. Et il faut à la fois que ce soit assez ouvert pour me permettre d'être créative dedans, et en même temps assez fort et puissant sur la proposition pour que ça enclenche la propulsion. En
fait. Donc c'était Eugénie dont vous aurez reconnu la voix si vous êtes fidèles auditeurs.
Qui vient de hacker le podcast violemment.
Et qu'on n'a pas présenté au départ puisqu'elle ne voulait pas parler, mais finalement si. Parfait. Ok Vivien, tu t'es réemparé du micro. Qu'est-ce que tu penses toi de cet aspect joueur-joueuse?
Alors moi ça m'évoque en fait là spontanément, parce que j'ai pas trop réfléchi sur cet aspect-là, et que je suis quand même moins souvent joueur en ce moment que Mona. Ça m'a fait penser à un article d'Eugénie en fait dans Casus, il me semble, où tu disais en gros que le joueur avait mauvaise réputation quelque part, on le traitait de grosse feignasse, et qu'il était temps aussi qu'il avait à demi mérité cette réputation, que c'était à la fois qu'il avait intériorisé finalement quelque part cette réputation qu'on lui collait. Et quelque part, est-ce que c'est pas aussi à la fois, en fait, est-ce que c'est pas à la fois à l'auteur, au meneur et au joueur dans un jeu, on va dire, où il y a meneur, de se prendre en main ensemble pour faire en sorte que s'il y a univers relativement décrit, que cet univers soit accessible au joueur, c'est-à-dire qu'il ne lui soit pas interdit, et en même temps que le joueur, lui, fasse l'effort, on va dire, de lire cette partie-là et pour s'en emparer justement en amont. Voilà, c'est ce à quoi ça me fait penser.
Et pour ça, j'ai un exemple, moi, de vécu, c'est Eclipse Phase, où l'univers est tellement riche, et tellement énorme, et tellement fouillé, quoi, que c'est impossible. Enfin, en tout cas, nous, à notre table, c'était impossible que le MJ gère ça tout seul, nous explique tout seul ce que c'était et tout. Donc tous les joueurs de la table avaient lu, feuilleté au moins, le livre de base en PDF et avait lu les parties qui concernaient son perso, que ce soit les planètes d'où on venait, que ce soit nos propres habilités, enfin capacités, etc., les factions qui nous concernaient, etc., histoire que chacun soit référent de quelques trucs. On avait morcelé un peu le truc, parce que sinon c'était pas possible qu'il y ait une seule personne pour gérer tout ça, quoi.
Et voir aussi, on va peut-être te conseiller un corpus d'œuvres, de films ou de bouquins qui sont pas vraiment l'univers, mais qui sont dans le même genre narratif pour t'imprégner, quoi. J'avoue que tu sais peut-être mieux que moi c'est quoi les grands noms de romans dans le transhumanisme, par exemple, qui pourraient servir d'inspiration pour...
Eclipse Phase, tu peux citer la série de Richard Morgan qui commence par Carbone Altéré, je crois, en français. Qui est quand même assez, qui est vraiment une base du jeu, et après tu peux aller explorer les romans de Peter F. Hamilton qui parlent pas mal de ce que serait une société dans laquelle on a des possibilités qu'on retrouve dans Eclipse Phase, même si c'est pas exactement le même transhumanisme. Tu peux parler
de Greg Egan,
voilà, un de mes auteurs préférés en plus, donc merci de le citer. On peut citer par exemple un de ses romans, on peut citer ses nouvelles, mais on peut citer aussi un de ses romans. C'est L'énigme de l'univers, dans lequel le roman commence par l'exploration de quatre reportages que fait un journaliste, qui est le personnage principal du bouquin. Et à travers ces quatre reportages, on a une introduction, une exposition en fait d'un univers qui est très très parlante, je trouve, et qui aborde justement un certain nombre de sujets autour de ce transhumanisme. Et donc c'est un très très bon, très bon, très bonne façon d'aborder le jeu. Et malheureusement, sur Eclipse Phase, c'est difficile de s'approprier l'ensemble de l'univers. Du coup, ça nous renvoie à ce à quoi on pensait au départ, c'est-à-dire plusieurs jeux pour aborder cet univers-là, ce serait pas du tout absurde.
C'est une question d'engagement, c'est-à-dire oui. À quel niveau tu veux t'engager dans t'aventurer dans l'univers. Est-ce que tu veux effectivement tout? C'est-à-dire que des fois, la recherche encyclopédique va compléter l'expérience de la partie qui est insuffisante à te couvrir aussi. Et à quel point, des fois, au contraire, tu voudras plutôt t'aventurer par petites touches, par petites étapes, et uniquement limiter ton engagement à la partie et non pas à des recherches extérieures.
Et si on parle de l'expérience de joueur, moi, ça me renvoie encore une fois au Monde des Ténèbres, où c'était quand même super cool, avec chaque année un nouveau jeu qui sortait, de se dire, on a déjà exploré en jouant les vampires, la prochaine fois, on va jouer les loups-garous qui étaient déjà leurs ennemis au départ, donc on va voir ce que c'est que jouer ce personnage-là, c'est-à-dire passer ce côté PNJ, violent, dangereux, terreur des joueurs, etc. Et on va jouer ce monstre qui était un monstre pour les autres. Puis on va jouer des gens qui sont hors de ce jeu-là, les mages, etc., etc. Et donc explorer le jeu petit à petit, enfin l'univers de jeu petit à petit, en prenant des approches différentes, c'est très intéressant. Mais il n'y a pas nécessairement besoin, en tant que joueur, de plusieurs jeux pour faire ça. Dans les jeux auxquels on jouait à l'époque, ne serait-ce que, disons Donjons & Dragons, il y avait un moyen aussi d'aborder ce genre de choses, c'était différents scénarios. Parce qu'avec différents scénarios, chaque scénario est presque un jeu à part entière. C'est un petit peu comme si le jeu de base, son univers, plus un scénario, c'est ça qui faisait un jeu complet. Et qu'à partir de là, dès qu'on change de scénario, on change un petit peu la perception. Et voilà. C'est ce que fait plus récemment Pathfinder avec ses Adventure Paths, où à chaque nouveau truc, il y a un nouveau setting qui est exploré, une nouvelle thématique. Bon, après, ça, on peut aimer ça, on peut ne pas aimer ça. Moi, quand j'en ai joué, je me suis emmerdé. Mais bref, ça marche, ça peut marcher, quoi.
Juste sur ce sujet, alors ça empiète peut-être un peu sur la partie qu'on voulait traiter après, sur justement le fait de traiter un univers selon plusieurs angles. Mais j'ai l'impression que cet avantage-là, parce que là tu as parlé de Donjons et Dragons et du Monde des Ténèbres, je vais revenir d'abord sur Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, quelque part, c'est possible par le format même, on va dire, de l'aventure et de la quête, qui part du principe que le joueur sort de chez lui, enfin le personnage sort de chez lui et va dans un inconnu, donc peut découvrir l'univers progressivement, donc le meneur de jeu est invité à lui faire découvrir. Donc chaque scénario, en fait, est une redécouverte, une nouvelle exploration, et c'est même quasiment une obligation.
C'est presque aussi un principe, finalement, notamment avec le donjon, comme dans un jeu vidéo, c'est les stages qu'on va charger, quoi, qui sont un petit peu indépendants, déconnectés les uns des autres.
Parce qu'on parle souvent du combat tactique comme l'élément central de Donjons et Dragons, mais l'aspect exploratoire, en fait, est extrêmement important dans ce jeu-là. Et du coup, cet aspect tire très bien profit du fait que le joueur est en situation de non-connaissance, quelque part, de l'univers, au même titre que son personnage, qui se retrouve dans un univers inconnu et découvre en même temps. Voilà. Du coup, là, il n'y a pas de... Comment on pourrait appeler ça de dissonance en quelque sorte.
Synchronicité entre joueuse et personnage, qui démarre niveau 0, il connecte juste sa campagne, et puis il va explorer le monde.
Et je pense que c'est pas pour rien que ce jeu ou ce format-là marche aussi bien dans le jeu de rôle, parce que les deux ensemble marchent bien. À l'inverse, le monde des ténèbres, moi ça m'évoque plutôt un problème, parce que le monde des ténèbres est systématiquement quasiment organisé sous forme de book sur les livres, enfin sur les villes. Et la ville, en fait, est par essence un livre que le joueur ne peut pas avoir. Parce qu'il est truffé de secrets, il n'a pas été conçu pour être accessible, etc. Donc en fait, c'est le meneur de jeu qui sait qui sont les PNJ, comment est organisée la ville, etc. Et le joueur, du coup, se retrouve soit systématiquement avec un personnage qui vient d'être créé et qui découvre l'univers, ce qui peut marcher, du coup. Soit se retrouve avec un personnage qui est censé avoir des liens avec des gens que, en fait, le joueur ne connaît pas, ne comprend pas. Le meneur de jeu est toutes les deux minutes en train obligé de lui dire « Ah non, mais ça, tu peux pas trop parce que t'es PNJ, tu sais que... » Et puis en fait, il n'y a aucune émotion... Ce qui est important aussi, c'est les connexions émotionnelles entre le personnage et son environnement, parce que les gens ne sont pas issus de... sui generis, d'un espace vide, quoi. Ils ont des liens émotionnels qui déterminent aussi en partie leur réaction, et ça, il ne les a pas, le joueur, il ne connaît pas le PNJ, il n'a pas lu le bouquin, il n'a même pas accès à un guide du joueur. Voilà, c'est moi je voulais rebondir du coup en donnant juste deux exemples de jeux qui essayent d'aller un petit peu plus loin. Alors le premier est peut-être anecdotique, je pensais à Sens avec le livre du comment ça s'appelle, Le Monde Logique, où des personnages ont écrit un livre et le livre tu peux le donner aux joueurs.
Ouais, c'est les cheat codes de Sens en fait.
Ouais, c'est un peu ça, et du coup les joueurs peuvent le prendre et le lire à part et ensuite se l'emparer. Et peut-être plus intéressant, c'était La Cité des Mensonges pour Légende des Cinq Anneaux, qui me paraissait un très 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 bon exemple de jeu enfin tourné vers les joueurs, où les joueurs sont envoyés donc dans une ville, un vrai panier de crabes, on va dire, enfin un panier de scorpions dans l'univers, où il y a plein d'intrigues et tout, ils sont envoyés pour enquêter sur un magistrat, etc. Et ils ont, y a un livre pour le meneur de jeu, un livre pour les joueurs à lire, plus un journal du magistrat qu'on peut découvrir et qui contient des indices importants, etc., sur la mort du personnage. Et donc vraiment, les choses ont été tournées de façon à ce qu'ils ont écrit deux guides, en fait. Un premier guide du jeu, de l'univers pour le meneur, et un autre guide pour les joueurs, pour que les joueurs puissent le lire sans aucun problème et s'imprégner de l'univers. Bon, c'est un peu paradoxal parce que le scénario les envoie pour la première fois dans cet univers, donc théoriquement, ils devraient le découvrir en même temps que... Mais imaginons... Du coup, on pourrait jouer à cet univers en jouant des gens qui sont déjà nés là et qui connaissent déjà les PNJ, quoi.
À la limite, l'exemple encore plus extrême, c'est les playsets pour Fiasco. Comme c'est un jeu sans MJ, en fait, on présente un contexte et tout le monde en a la même connaissance. Il y a un jeu en totale transparence à ce niveau, quoi. Et ça m'amène à la question suivante qui avait été posée. Je sais plus qui l'a posée, hein, mais c'est pas grave. Pourquoi un univers est fécond, en fait?
Attends.
Ah, Steve,
tu voulais dire quelque chose, Steve?
Non. Je pense que ouais.
Pourquoi un univers est fécond? C'est-à-dire pourquoi ça crée du jeu? Je suppose que c'était ça la question.
Oui, ça peut être une façon de voir. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il est fécond? Pourquoi il peut donner naissance à différentes approches, peut-être?
Oui, puis ce qui est intéressant, c'est de dire qu'est-ce qui fait qu'un univers marche ou marche pas en jeu de rôle, quoi.
Oui, pourquoi est-ce qu'il donne envie de créer un jeu autour de cet univers-là? Ça peut être une façon de voir les choses aussi.
Qu'on est capable de répondre à la question?
Je ne sais pas, mais... Ça me donne une réponse par rapport à ce que tu disais sur le monde des ténèbres, qui va se rapprocher un petit peu de ça. Ce qui rendait intéressant le fait d'avoir plusieurs jeux autour d'une même ville dans le monde des ténèbres, c'était justement de pouvoir compléter les choses que tu n'avais pas pu connaître en jouant ton personnage à cause des secrets qui sont présents dans cet univers-là. Un des grands plaisirs, c'était vraiment d'aborder par des camps différents, la même endroit. Nous, la façon dont on jouait assez régulièrement autour de Paris, on créait des choses comme ça, et en fait, tout ce qu'on avait créé dans la campagne précédente du premier jeu re-intervenait dans la campagne suivante en termes de PNJ, etc. Sauf que c'était plus la même approche, c'est-à-dire que, je disais, les loups-garous ennemis, etc. Dans Vampire, on les avait peu vus, c'était des menaces à distance, on savait qu'il fallait pas aller dans tel quartier, dans tel truc, et quand on jouait à loups-garous le coup d'après, et ben là, du coup, on savait où étaient les vampires, on connaissait des secrets sur eux, et on découvrait d'autres secrets, et on peuplait comme ça l'univers petit à petit. Du coup, pourquoi c'est un rapport avec le côté fécond? Parce que c'est pas seulement pour te répondre. Pourquoi c'est un rapport avec le côté fécond? Parce que cette sorte d'incomplétude qu'on avait en jouant dans un univers, non, c'est bon, en jouant dans un aspect de l'univers, nous poussait à vouloir l'explorer différemment, et donc à pouvoir mettre en place différentes approches. Et c'est cette richesse-là, cette profondeur-là, qui donnait naissance à cette envie d'exploration. Voilà. Après, qu'est-ce qui fait qu'un univers est intéressant à jouer?
Ceci dit, on est d'accord pour dire que les univers, a priori, il y en a qui n'aiment pas, mais que les univers de White Wolf pris indépendamment, vampires, machin, c'était des univers qui donnaient envie de jouer, qui étaient féconds, entre guillemets, pour employer ce terme, initialement, même avant de les pratiquer, puis de refaire un jeu dans le même univers, etc., etc., quoi.
Oui, parce qu'à chaque fois qu'ils créaient un jeu, on avait quand même une approche, c'est-à-dire... on jouait dans ce monde des ténèbres qui était assez vague, qui avait peu de descriptions au départ, et on se disait, voilà, là on va jouer des vampires, là on va jouer des loups-garous, là on va jouer des mages, là on va jouer des humains, là on va jouer ça. Donc ça nous donnait un point d'approche. Ce qui est un peu l'opposé d'un certain nombre d'univers qui vont être très décrits, de manière très encyclopédique, mais sur lesquels tu n'as pas de point d'approche. Bah, Eclipse Phase, justement, à la base, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'est ça le gros problème du jeu. L'univers est tellement vaste que tu ne sais pas par quelle boule prendre. Dans le bouquin, au départ, il te donne un embryon de possibilités en disant, voilà, vous pouvez jouer des membres d'une organisation, etc.
Mais tu vois peut-être pas où sont les clivages, où sont les factions, où sont les problèmes.
Si, tu les vois, mais c'est une mécanique qui est tellement...
Il y a trop de choix.
Il y a tellement de choix que si tu ne fais pas, justement, toi, en tant que MJ ou en tant que joueur, un certain nombre de choix pour limiter l'étendue de cet univers, tu ne vas pas pouvoir donner naissance à des parties. Tu vas dire, waouh, putain, c'est balèze, il y a plein de trucs, oh, c'est cool, j'aimerais bien l'explorer, mais par quelle boule prendre? Donc du coup, pour moi, c'est pas fécond. Moi, qui bah, pour parler de mon expérience, encore une fois, et pour parler de d'Eclipse Fest pour lequel j'ai écrit une campagne, bah, j'ai choisi un angle.
Il y a besoin d'un focus. Quoi.
Ouais, j'ai choisi un focus, j'ai choisi un angle, et là, c'est devenu fécond, j'ai pu, au fur et à mesure des éléments de la campagne, éclairer différentes parties de l'univers, le permettre son exploration, etc. Mais si j'avais pas choisi un point d'attaque cet univers, il serait resté une espèce de belle mécanique, de tableau qui serait resté dans la bibliothèque, dans lequel j'aurais bien aimé aller l'explorer en lisant des suppléments, en prenant plaisir à ça, mais pas y jouer. Parce que y jouer, l'intérêt, c'est aussi de foutre le bordel.
Et puis c'est un point important aussi dans la communication joueur-meneur, quoi, ou même interjoueur, bêtement. De savoir quand même dans quelle direction à peu près on va, puis histoire de voir
à quoi on joue, qu'est-ce qu'on joue, pourquoi on joue.
Ouais, voilà, quoi, histoire de... Parce que bon, si le meneur file le bouquin, comme tu dis, ça part dans tous les sens, bah... Après, il n'y a pas de communication.
Et ça t'oriente sur l'information que tu dois donner. J'ai un MJ de Sky Realms of Jorun, c'est un jeu de space fantasy avec plein de races ultra bizarres, machin. Et il avait coutume de dire... La première chose qu'il faut faire pour commencer à jouer, c'est apprendre à peu près 600 mots de la langue locale. Et là, j'ai envie de répondre, mais what the fuck?
Mais c'est cool, tu te rends pas compte.
C'est une question d'engagement, okay, Thomas. Écoute, si t'es pas prêt à t'engager, bon bah voilà.
Si on me force à apprendre 600 mots, faut vraiment que le langage y ait quelque chose d'important dans les thématiques du jeu. À la limite, à Mindjammer, où la notion de linguistique elle est centrale, je veux bien. Jorun, est-ce que c'est pas juste pour faire exotique
C'est un composant de l'exotisme, okay. pour t'extraire de l'idée des humains de ton univers classique.
Mais bon, à la rigueur, s'il y avait une problématique dans Jorun, c'est bien l'étrangeté, donc ouais, bah, voilà. Pas, ouais. Ouais.
Cela dit, pour revenir sur la fécondité, pour moi, la question, elle est pas mal dans la façon dont on va adapter des œuvres, par exemple, en jeu de rôle. T'as énormément d'œuvres qui sont de films, de romans, etc., où tu te dis, waouh, j'ai vraiment aimé cet univers. Puis il y en a certains où tu te dis, waouh, j'ai vraiment aimé cet univers, et alors qu'est-ce que j'aimerais bien y jouer? Et est-ce que ça tient, à votre avis, de l'histoire qui a été racontée dans l'univers, ou est-ce que ça tient de l'univers lui-même? C'est-à-dire, quand on est dans un univers où on a toute une super histoire, mais l'histoire est, entre guillemets, finie, le roman va bouleverser un petit peu les codes de cet univers-là, etc.
Genre Le Seigneur des Anneaux, par exemple.
Par exemple, Le Seigneur des Anneaux.
Qui a été adapté plein de fois.
Qui pose un vrai problème. Quand est-ce que tu joues quand tu veux jouer dans cet univers-là? C'est un univers qui a un beau terrain de jeu dans lequel on peut avoir envie de jouer ou pas, ça dépend des gens. Mais moi, j'ai toujours eu des problèmes avec ces bouquins-là pour me dire, ouais, alors, j'ai vraiment aimé l'histoire, j'ai vraiment aimé tout ce qui se passe dans le bouquin. On pourrait parler de la belle Dariade des Dings aussi, qui va être un truc qui t'emporte.
C'est peut-être une notion de champ et hors champ, en fait.
Peut-être,
ce qui donne envie de jouer dans Le Seigneur des Anneaux, finalement, c'est ce qui se passe hors champ. C'est les mouvements de nations qui sont en route et qui ne sont pas traités à fond.
Les monuments chargés d'histoire à chaque fois, où tu dis qu'il y a des trucs derrière, mais ils n'ont pas le temps de les explorer, donc ils passent juste.
Et puis, toute toute la métaprose autour, le Silmarillion, tout ça, enfin toute l'œuvre encyclopédique qu'il y a autour, quoi. Hein.
Ou alors ça peut être aussi l'existence de mystères qui n'ont pas des questions, qui n'ont pas eu de réponse dans les romans ou dans l'œuvre de fiction en général.
Dans, tu vois, ce qui justifie, réponse, ouais. Bon, pareil dans Harry Potter, je ne suis pas ultra fan, mais je vois très bien qu'il y a toute une écologie qui se dessine. Que l'histoire des personnages principaux ne suffit pas à épuiser, en fait. On voit bien qu'il y a tout un tas de choses. On pourrait faire une collection de potions, de sorts, de créatures, machin. Et donc, il y a clairement un terreau fertile pour explorer, parce qu'en fait, un seul ce fil narratif ne suffit pas à épuiser l'univers.
Oui, en plus, il me semble que c'est dans le sixième ou le septième livre où elle commence à évoquer des grands méchants, mais d'une autre époque, où on sent qu'elle décolle un peu de son univers et dit on peut imaginer d'autres moment, d'autres lieux, d'autres aventures. Voilà, c'est ça, où il y a une espèce d'ouverture comme ça, là où ça, elle aurait pu se limiter à bon, il y a un grand méchant, il est mort, voilà. Enfin, désolé, j'ai spoilé.
Quelle horreur! Mais pour parler d'univers qui pour moi ne serait pas fécond au niveau du jeu, je peux reprendre l'exemple d'Egan dont on parlait tout à l'heure. Il a écrit, un exemple de roman qu'il a écrit, c'est possible qu'on peut trouver en français, on a un roman qui s'appelle Isolation. Isolation, c'est un roman qui donne, il y a certains aspects du roman qui donnent vraiment envie d'aller explorer cet univers-là. C'est-à-dire qu'on arrive, on a un personnage qui est un peu détective, qui s'est mis une espèce de filtre cognitif qui lui fait voir la vie comme un film noir, en noir et blanc, avec toute une série de choses. Et au fur et à mesure que le roman avance, on comprend ce qui se passe, il y a toute une histoire, bon après c'est du Egan, donc c'est forcément assez barré, ça va assez loin dans le concept. Et une fois que c'est terminé, ouais, ok, les trucs du début étaient cool, mais l'histoire, elle se tient. J'ai pas envie d'y toucher, quoi. J'ai pas envie de revenir dans ce truc-là. Surtout que ça fait partie des trucs qui bouleversent un petit peu la perception de départ. Dans un autre roman, il va décrire une espèce de peuple extraterrestre avec des lois de la physique complètement différentes des nôtres. Enfin, c'est un truc assez dur à suivre. En tout cas, moi, j'ai eu du mal un peu à le suivre, même si j'ai aimé ça. C'est pareil, je suis admiratif face à la construction de son univers, mais j'ai pas du tout envie d'y jouer.
Et du coup, ça boucle en fait avec l'intervention de Léo Henry à Caride sur une soirée jeux de rôle et littérature, justement, où il parlait notamment dans beaucoup de livres de genre type SF, fantasy, etc., d'une imperfection que nous chérissons parce que elle nous permet à nous de nous approprier le livre, d'y revenir, de nous balader à l'intérieur, etc. Ce qu'une totale perfection formelle et qu'une œuvre achevée ne permet pas, en fait. La place du lecteur n'est pas la même. Et je trouve que c'était assez juste et que ça rejoint, en fait, ce que vous dites. Est-ce qu'une imperfection est nécessaire dans les livres pour que leurs univers soient, appropriables par les joueurs ?
Je t'en prie.
Je suppose que pour conclure le sujet, on pourrait aussi renvoyer en autre référence au podcast Ludologie sur adapter une œuvre.
Absolument, oui.
Et du coup, j'aimerais bien qu'on passe à la suite, qui me paraît, où on aura peut-être des choses plus originales à dire.
Juste peut-être un peu plus. J'avais l'impression. Je me demande à quel point les univers, enfin adaptables de fiction, on va dire plus statique, prennent pas un peu de recul par rapport aux personnages eux-mêmes. Je pense à Lovecraft, à Cthulhu. Où les personnages sont finalement pas le centre de l'histoire, mais c'est plutôt un univers oppressant, etc. Je vais prendre un exemple un peu différent avec le manga Fullmetal Alchemist, que je trouve tout à fait intéressant, avec des personnages très séduisants, mais où l'univers, on sent qu'il est bien développé, il y a une espèce de magie qui est... je pense aussi alors du coup au livre de Mathieu Gabory, qui commence non pas par une histoire, mais parfois carrément par une cosmogonie. Bon, lui, il vient du jeu de rôle, donc c'est pas un hasard. Mais voilà, ou comme si il y avait quand même deux choses, c'est-à-dire on met un univers et dedans on met des personnages ensuite et on voit comment ils réagissent, comment ça réagit finalement personnage contre univers, quoi, quelque part. Là où il y a des romans ou des films où on est vraiment complètement dans l'intériorité du personnage et l'univers finalement, c'est pas qu'il n'existe pas, mais c'est qu'il est quasiment fusionné avec le personnage lui-même.
Ou alors tu prends l'ordre du contrevent, moi j'ai l'impression, je vais pas spoiler, mais j'ai l'impression que les personnages terminent l'univers, parce que les personnages sont à la quête de qu'est-ce qu'il y a au bout du chemin, au bout du vent. Bon, du coup, il termine l'univers.
Il commence et termine l'univers complètement.
Difficile. Enfin, je me suis posé la question, est-ce qu'on peut faire un jeu de rôle à l'heure du contrevent?
On sent qu'il y a des trucs qui échappent à cette
petites,
logique.
Il y a des petites vignettes qui, l'impression, qui sont évoquées, effectivement, en hors champ, quoi, du coup.
Mais ce serait pas la même chose, c'est plus le contrevent, vraiment.
Ouais, et pour boucler vraiment sur cette histoire-là, on pourrait aussi juste évoquer les notions des livres univers qu'on trouve dans le domaine du jeu de rôle. Des livres hyper détaillés qui décrivent un univers, une ville, par exemple.
Tu penses à Kadath, par exemple.
Ouais, ou différentes choses, voilà. Différents jeux comme ça, qui sont, différents éléments comme ça. Et du coup, qu'est-ce qui rend, je rebondis par rapport à ce que disait Vivien, est-ce que ce qui rend utilisable en jeu de rôle ce genre de choses, c'est parce qu'on y parle de lieux, pas tellement de personnages. Il n'y a pas d'histoire avec un personnage à l'intérieur. Parce que sinon, pour moi, ces espèces de constructions-là peuvent être magnifiques, mais pareil, pourquoi y jouer, quoi ?
Mais relativement stérile.
Ah ouais, alors, il faut que les personnages fassent univers, quoi. Quand tu vois Ellie Wood, qui est d'Emmanuel Garbi, qui est construit vraiment par les personnages de la ville, les personnages font univers. Tout ce qui est jeu de rôle textuel, ils rejouent Harry Potter, en fait, ils reprennent les personnages de Harry Potter, quoi. Parce que, du coup, ils utilisent les personnages comme univers. Mais après, il faut avoir le... Il y a le principe en jeu de rôle textuel, jeu de rôle par forum, il y a un terme qui s'appelle le post-vacant. C'est-à-dire quand tu lances une campagne de Harry Potter par forum, eh ben, il y a une liste des postes vacants, donc c'est les noms des personnages qui peuvent être incarnés, quoi. Et du coup, c'est une autre façon de faire univers, de faire mouvement, quoi. Et la question que j'avais à suivre, c'était. C'est-à-dire c'était vous qui me l'a posé, elle venait pas de moi. Est-ce qu'un univers seul peut suffire à faire un jeu de rôle ? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait jouer dedans sans rajouter des GD, des mécaniques, ceci, cela, quoi ?
Bah déjà, on peut filer sur ce qu'avait dit Julien juste avant, sur les univers déjà écrits, qui ne sont pas à la base prévus pour être des jeux de rôle, mais où on sent que c'est des gens qui ont fait du jeu de rôle avant, et qu'ils se disent peut-être qu'en prenant un système, on pourrait peut-être en faire quelque chose. Moi, j'avoue que l'exemple qui me vient en tête, c'est Jadis, qui est conçu comme un jeu de rôle quasiment.
Tu peux nous éviter
c'est quoi, c'est la Renaissance Fantasy, c'est une espèce de Renaissance Fantasy. Ça prend comme forme, avec le Kickstarter, ça a pris comme forme une série de, comment dire, un roman basé sur des narrateurs multiples, qui a été écrit quasiment comme un jeu de rôle. C'est-à-dire chaque auteur, en fait, avait un personnage en charge et devait imaginer son aventure, et il y avait des croisements comme ça qui se faisaient. Et en plus, à côté, il y a une carte qui a été faite. Enfin, on retrouve des éléments qu'on retrouve dans le jeu de rôle d'habitude, comme ça, de conception graphique aussi du jeu, comme si la ville existait vraiment. Voilà. Et moi, quand je dis ça, j'ai l'impression de ne pas pouvoir en faire quoi que ce soit, en fait. J'ai une ville, voilà. Bah, c'est cool, je connais plein de villes super bien aussi. Soit on considère qu'il manque des règles à cette ville. Des règles d'univers.
Alors, il y a peut-être une science de l'écriture qui est c'est une chose de décrire un univers, c'est une chose de le décrire comme étant des éléments actionnables. Il y avait Corey David de Okolo qui parlait du désert de la mort, et des vieux dans les cartes de l'univers de Gloranta qui étaient très évocateurs, et du coup tu sentais qu'il y avait une tension, ne serait-ce que dans le terme, par exemple, on va traverser le désert de la mort, il y a une tension qui fait qu'on peut déjà commencer à imaginer, à voyager.
Alors, ce qui est très drôle, c'est que justement, pour moi, le désert de la mort, c'est un peu le désert de la mort du jeu de rôle aussi, parce que, en fait, quand t'entends ça, c'est extrêmement évocateur, c'est des grands paysages étendus et tout, et en fait, souvent, alors c'est pas le cas tout le temps, il y a des jeux qui y arrivent, mais souvent, ça conduit à des parties d'un ennui mortel.
Ouais, parce que tu te poses la question,
qu'est-ce que j'ai à y faire, quoi ? Alors, ok, on va me décrire ta tressoie. Alors, moi, j'ai fait une partie de, comment ça s'appelle, le jeu de donjon, l'univers de Donjons et Dragons dans le désert ?
Dark Sun.
C'était une corvée horrible, quoi. Tu as très soif, tu as encore plus soif, tu as encore plus soif.
Des fois, on manque d'outils, en fait, pour ludifier, par exemple, ces traversées de paysage. Et c'est vrai que bon, on pourrait faire un podcast entier sur comment on gère le voyage en jeu de rôle. Hein. C'est une vraie arlésienne. Il y a certainement des jeux qui le font très bien, mais c'est difficile. Hein. Moi, je suis premier à reconnaître que c'est très très difficile à mettre en jeu un voyage.
En fait, vis-à-vis de ce type d'univers, vis-à-vis de ce désert de la mort, etc., on a la question de savoir si en jeu de rôle, on va essayer d'avoir une action ou une contemplation. Est-ce qu'on peut avoir un jeu de rôle en pure contemplation d'un paysage, d'un univers, simplement en se baladant à l'intérieur. Ce qu'on peut faire dans certains jeux vidéo, il y a certains jeux vidéo qui se basent sur
un jeu de rôle à la journée, quoi.
Oui, voilà. Est-ce que c'est possible un jeu de rôle de ce type-là ? Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce qu'on peut en faire quelque chose ou pas ? Finalement, c'est là qu'on est. Moi, j'ai tendance à penser que pour engager toute une table, tout un groupe de gens, et pas seulement une seule personne, parce qu'une seule personne, c'est assez facile finalement de s'engager dans cette contemplation, mais pour engager un groupe de gens, c'est quand même plus difficile. Il faut avoir des enjeux, il faut avoir des éléments. On murmure Happy autour de moi. Je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vous dire. Peut-être, oui, peut-être. S'il y arrive, tant mieux. Mais voilà, c'est pour moi un et groupe
happy
de gens.
Happy Together pour le faire.
Happy, ben, voilà, Together peut-être. Peut-être. Qui sait. Moi j'ai la chanson des Turtles qui résonne à chaque fois quand j'entends ça. Mais faut voir, ouais. Faut voir. C'est vraiment cette question que j'évoquais tout à l'heure avec Eclipse Phase qui est l'angle d'attaque. Il me faut, pour pouvoir aborder un univers, le prendre par un bout. Alors, est-ce que je vais décider d'aller explorer la vie désertique dans Dark Sun, voir ce que c'est que survivre dans le désert ? Est-ce que je vais décider, au contraire, de jouer dans cette espèce de grande, dans ces grandes cités-états dominées par des rois sorciers qui imposent une loi terrible ? Qu'est-ce que je vais choisir de faire ? Premier point.
Et puis, il faut que ce soit actionnable, quoi.
Et voilà. Et le deuxième point, c'est qu'est-ce que je peux perturbé à l'intérieur, qu'est-ce que je peux y faire.
Et aussi, qu'est-ce que l'univers peut me faire dessus, quoi.
Voilà.
Si je traverse le désert de la mort, j'ai juste droit à une description, et qu'en fait, le désert de la mort, il peut pas me tuer, bah, il peut pas agir sur moi, on tombe à plat, quoi.
Oui. Est-ce que c'est intéressant de jouer la pure survie dans le désert, au quotidien, en se disant, qu'est-ce que je vais bouffer, qu'est-ce que je vais boire, comment je vais aller d'un point A à un point B, juste ça. Ou est-ce que tu dois donner un enjeu à ton voyage pour t'impliquer dans l'histoire. Est-ce que tu dois créer des rebondissements à l'intérieur pour que les joueurs aient de l'action ? Est-ce que c'est les joueurs qui doivent amener les rebondissements ? Est-ce que tu vas dans cet univers te concentrer sur les relations à l'intérieur du groupe ? Voilà, tu as des tas de choses, mais ils te font un point d'accroche, quoi. Pour moi, en tout cas.
Et du coup, l'autre question, c'était, est-ce qu'on peut se contenter d'un univers, mais et genre sans règles ? Est-ce que les règles de l'univers, en fait, suffisent ? C'est ça ?
Ouais, et en fait, premier élément de réponse que j'avais envie d'apporter, c'est que avant même de penser à mettre des mécaniques, si vraiment il y en a besoin, ce qui fait jeu, c'est un univers en mouvement. Ouais, il faut qu'il y ait, c'est la notion de mouvement qui me paraît importante à retranscrire, quoi.
Bah, je sais pas, tu voulais peut-être parler plus tard de Milvaux, enfin de l'univers de Milvaux, globalement, mais il me semble que c'est un bon exemple de ça, justement, d'univers qui commence d'abord par ses propres règles avant de commencer avec des règles de jeu. Non ?
Oui, enfin, si tu veux, quand je présente Milvaux, il y a des paradigmes. Donc, effectivement, il y a des mouvements, il y a la ruine, fait que tout tombe en ruine, il y a la forêt envahit tout, l'emprise, tout se transforme, effectivement, donc il y a des mouvements. Hein. Est-ce que vraiment c'est. C'est marrant parce que. C'est encore la chose qu'en termes de game design et de pure mécanique, de dés, tout ça, c'est encore la chose qui n'est pas forcément la plus évidente à retranscrire en mécanique. On voit le mouvement qu'il y a dans cet univers-là, quoi. Déjà avec la question de, par exemple, une question qui est posée dans Milbo, est-ce qu'un jour l'humanité va disparaître pour faire place à l'animalité, quoi. Il y a une légende qui dit qu'en fait, tous les humains finissent par marcher à quatre pattes, par devenir des bêtes, quoi. Et il y a la notion de procédure, en fait, c'est-à-dire qu'un univers en mouvement, en fait, c'est un ensemble de procédures. C'est quelque chose qui est décrit notamment dans le manuel de Fate, hein, parce que Fate t'explique un petit peu comment faire ton propre jeu. Il y a Grum qui avait fait une conférence qui en parlait, et il disait, bah, d'abord, si vous voulez faire votre univers Fate, commencez par définir des procédures d'univers, des lois d'univers, et donner l'exemple d'un jeu de vampire sur lequel tu es en train de bosser, qui était défini par trois lois. Le prince est la plus haute autorité de la ville. Le sang, c'est la vie. Le feu, c'est la mort. Et en fait, là, déjà, on définit trois tensions. On définit des économies, parce qu'on sent bien que le sang va faire l'objet d'une économie. On définit une hiérarchie. Et donc, du coup, qui dit hiérarchie, dit mouvement, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont vouloir chanter cette autorité du prince. Et on définit des menaces qui peuvent aussi faire l'objet d'économies, puisque le feu est la mort, il y a forcément peut-être des vampires qui, pour combattre d'autres vampires, vont essayer de maîtriser ce feu, et ainsi de suite.
Oui, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que dans une de ces trois lois, en fait, est en quelque sorte pas facultative, mais peut-être bouleversée, quoi. Le roi, enfin le prince et le roi, pour l'instant. Mais ouais, le feu sera toujours un truc qui...
Bah encore, même le feu et la mort, ben justement, ça peut être l'objet d'une campagne de s'être transcendé cette condition, quoi. Est-ce qu'on peut pas s'écrire un rituel pour être immunisé au feu?
Mais on se dit que quelque part, ça sera la fin. Parce que si on fait ça dès le début ou au milieu...
Bah, du coup, c'est bien, parce qu'on
on pète une loi et on n'a rien derrière, tu vois.
Tandis que, ouais, attaquer le prince, tu peux... Enfin, si t'es 20e génération, on va peut-être pas le faire dès le premier scénar.
Oui, non, mais bien sûr, ça c'est... Mais on peut imaginer des complots, des trucs comme ça...
Au passage, le coup du feu qui est la mort, c'est quand même la base d'un des cycles de romans qui a été écrit dans l'univers de vampires qui s'appelle La Mort Rouge. Où t'as un vampire justement qui est capable de contrôler le feu et ça fout le bordel dans l'univers. Bon, bref.
Et donc, personnellement, j'avais fait une expérience d'essayer de faire un des jeux dans Milvaux qui s'appelle Une Floresa Bianca, qui est écrit sous forme d'un poème zen en fait, et qui est en fait une série comme ça de lois d'univers. Et charge aux joueuses de se dépatouiller avec ça pour essayer de faire jeu. Alors, c'est une expérience, je prétends pas que ce soit le jeu plus jouable que j'ai sorti, mais j'ai eu du retour de partie, donc il y a quand même des fous qui sont essayés. Merci Félix, si tu nous entends.
Ça me fait penser à justement cette interaction loi d'univers mécanique, ça me fait penser à un vieux jeu qui s'appelle Torg, dans lequel tu as des réalités alternatives qui envahissent la Terre et qui s'installent en imposant leurs lois. Et chaque royaume, chaque cosme ça s'appelle, chaque royaume qui s'implante sur Terre a une série d'axiomes et de lois qui vont définir ce qui est possible dans cet univers-là. Alors tu as par exemple, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Je ne les ai plus tout à fait en tête ces lois, mais par exemple t'as une, ce qui s'implante en France ça s'appelle la cyberpapauté, c'est une espèce de...
Oh, c'est trop rock'n'roll.
Je raconte pas. Une espèce d'univers cyberpunk, mais extrêmement teinté d'hierarchie chrétienne, c'est une théocratie, enfin pseudo-chrétienne. Et notamment, dans les lois de ce cosme-là, t'as la loi de l'ordalie, qui fait que, globalement, quand tu te fais juger, si tu es coupable, tu as des effets dans les tests qui sont menés par les inquisiteurs en question. Une connerie, savoir si tu flottes, si t'es une sorcière ou pas, bah si t'es une sorcière, tu vas effectivement flotter, alors que si t'es pas une sorcière, tu vas couler normalement. Bref, toutes ces espèces de superstitions chrétiennes de l'époque, de l'Inquisition, ou qui nous sont restées, qui sont pas forcément vraiment de l'époque d'ailleurs, se retranscrivent de cette manière-là. Et tous ces univers alternatifs qui prennent pied sur Terre ont leurs propres lois. Et t'as un conflit entre ces lois, et le principe du jeu, c'est justement de jouer cette espèce de guerre des réalités, où tu vas... jouer un héros qui, lui, peut s'abstraire des lois de l'endroit où il est pour conserver les lois de son endroit d'origine, justement. Et t'as tout un jeu autour de ça.
En fait, ce qu'on décrit là, c'est un ensemble, en fait, c'est un univers comme ensemble de liberté et de contraintes. Mmh. Et personnellement, un ensemble de liberté et de contraintes, c'est la définition que j'ai du jeu.
Bravo, merci.
Voilà, c'est terminé, il faut aller me coucher.
Mic drop.
Rien
à ajouter. Passons à la passion.
Évidemment,
la
on parle de contraintes créatives, quoi, de trucs qui servent soit à la fois de limites et plus intéressant de marche-pied, quoi, pour lesquels aller plus haut.
Et l'idée, quand tu définis un univers par procédure, c'est de donner des façons originales de gérer des situations. Dans Odyssea, qui est un jeu où tu refais l'Odyssée dans l'univers de Milvaux, il y a certaines procédures comme ça. Par exemple, si tu veux faire partir ton bateau, eh bien, il faut offrir un être cher aux dieux. Si quelqu'un vient t'apporter une mauvaise nouvelle, le messager, et si tu tues cette personne, ça va annuler la mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que le passé va être changé. Mais la fatalité fait que la personne qui vient t'apporter la mauvaise nouvelle, c'est toujours un être cher. Donc on a comme ça des générations de situations qui sont faites de façon procédurale. On peut imaginer effectivement prendre des livres univers. Alors, on a parlé de Kadat, de Jadis, moi je pense aussi au monde d'Orbaé, de François Place, qui clairement font jeu, ou même des romans, je pense au Jardin statuaire de Jacques Abeille, on a joué avec Influenza, où tu sens qu'effectivement... il y a des tensions, il y a certaines tensions dans l'univers de jeu qui ne sont pas épuisées par le fil narratif, et ces tensions vont recréer du jeu que tu peux replacer en jeu de rôle, quoi.
Est-ce que, je me pose d'un coup la question, est-ce qu'on ne peut pas considérer que certains univers sont trop décrits pour permettre même à un meneur quand même assez volontaire de leur imposer un angle d'approche? C'est-à-dire qu'ils ont été tellement minutieusement détaillés que en fait, on a l'impression qu'on n'arrive plus, quoi. Quand on commence à tailler dans un endroit, en fait, il y a des mécaniques qui... Enfin, pas des mécaniques de jeu, mais des mécaniques de, d'univers, quoi, qui tiennent plus vraiment la route.
Ouais,
qui,
les contraintes. Et...
Voilà, comme si c'était une belle horloge. En fait, tu as une belle horloge, mais tu voudrais que, bon, bah, elle soit un peu plus punk, donc tu enlèves un ressort, et puis pff, tout le machin te tombe dans les mains.
Ouais,
et,
c'est la question de, est-ce que tu designes un univers comme un monde, genre... Je refais la planète Terre, bon bah la planète Terre, il n'y a pas de problématique à la planète Terre, quoi. Enfin, où il y en a un milliard, quoi. Ou est-ce que je fais un univers avec une philosophie où en fait tout est tout traite en fait d'une certaine façon une philosophie, quoi. Moi j'ai tendance à continuer à dire par exemple que le thème de Milvaux c'est la vie en fait, les formes de vie. Bon, c'est ultra vaste en réalité, mais il y a quand même une espèce de philosophie comme ça qui va donner une direction aux choses, quoi, qui va donner des angles d'attaque, quoi.
Oui, puis on parle aussi de possibilité d'agir. Donc non seulement il y a le meneur de jeu derrière qui doit, enfin s'il y en a un, qui doit trouver son angle d'approche, et puis après tu as les joueurs. Et donc si le joueur à chaque fois qu'il dit quelque chose, on lui dit ah, oui mais il y a machin qui occupe déjà cette place, ou il y a un truc, si, tu peux pas vraiment le déboulonner, ou alors si tu commences à faire ça, mais tu le sais pas parce que de toute façon t'as pas lu le pavé de 600 pages, de toute façon tu peux pas, chaque élément est... Ah voilà quoi.
Donc là c'est l'univers comme terre des possibles au contraire.
Ouais,
donc,
ouais.
Il faut qu'il y ait une terre des possibles, qu'il y ait des places à prendre. Des...
Donc là, il peut y avoir stérilité par manque de trucs et stérilité par surabondance de trucs, quoi.
Ouais, ou alors dans
tous les postes de vacances sont déjà pris.
Dans ton cas de surabondance, le seul moyen d'y jouer, c'est ce que tu décrivais en enlevant un rouage et en faisant tout péter, quoi. Tu prends une construction superbe et tu vas la dézinguer en introduisant tes joueurs à l'intérieur. Du coup,
c'est ça superbe qui fait que tu avais envie de...
Eh ouais, du coup, qu'est-ce que tu fais, quoi? C'est, est-ce que tu prends
la gueule aux places de la ville
T'es fait tout s'effondrer.
T'es un vrai punk, Julien, en fait. Et pour prendre l'exemple d'univers sans règles, je joue au moins un jeu qui tente le défi, c'est La Cité sans nom d'Isser d'Argol. Puisque c'est présenté, c'est l'univers des cités sans nom, le livre est présenté comme un jeu de rôle. Il n'y a pas de mécanique dedans, quoi. Alors j'avoue que j'ai oublié de le lire, donc je crois qu'il propose d'adapter à certains. Tu peux y jouer notamment avec Donjons et Dragons, des choses comme ça. Mais clairement, il me semble que dans le bouquin, il n'y a pas de ce qu'on appelle des mécaniques, quoi.
Ouais,
mais il y a des tensions. Par exemple, chaque mort a un prix dans la cité sans nom. Bah, tac, là, on voit, il y a une procédure, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une économie autour des cadavres.
Tu as un autre exemple qui va un peu dans la même direction. C'est un bouquin qui s'appelle Dragon Kings, qui a été sorti par les auteurs de Dark Sun au départ, et qui est ce que les Américains appellent un bouquin système agnostique, c'est-à-dire que t'as pas de système de jeu. Ils en proposent derrière éventuellement des adaptations, mais tu as l'univers avec ses enjeux, ses tensions, ses factions, mais t'as pas de règles derrière. Et d'ailleurs, moi, je l'ai lu, je l'ai lu en entier, mais j'en ai lu une bonne partie. J'ai trouvé ça vachement intéressant, mais c'est pareil, j'avais pas de prise, quoi. Il manquait quelque chose pour y jouer.
Mais c'est peut-être
est-ce que la cité sans nom est prévue pour y jouer? Est-ce que on te donne des points d'introduction dans la vie? Non, tu l'as pas lu.
Je l'ai pas lu.
Après, j'ai l'impression des fois que... Enfin, je suis pas le seul.
Claire, envoie-moi le livre, je le dirai. Ouais. Parce que j'achète pas les livres.
C'est que la distinction univers-règle, elle est un peu comme la distinction fond et forme en littérature.
Ouais, ouais.
C'est qu'il y a un moment où on sait plus trop à quel moment on bascule vraiment de l'univers vers les règles. Bon, c'est ce qui limite forcément du coup notre idée, parce que quand
t'as peut-être un état d'esprit de joueuse aussi qui va savoir que t'as une sorte de geste rôliste qui fait que tu es capable de mettre cet univers en mouvement sans l'aide de mécanique. Et par exemple, les joueuses par forum, elles ont cet état d'esprit. Il y a quand même la majorité du jeu de rôle par forum. Il y en a qui utilisent des mécaniques, mais il y a beaucoup en fait qui jouent sans mécanique, quoi. Et avec une sorte d'état d'esprit qu'elles sont capables de mobiliser les tensions qu'il y a dans le contexte, quoi.
Est-ce qu'on se renvoie pas sur le système zéro de Brand, justement, où on te dit, tu prends l'univers, tu greffes ta façon de gérer les choses, qui peut être mécanique, qui peut être non mécanique, mais dont le principe est simplement, mettons-nous d'accord sur ce qu'on raconte.
Oui, au final, c'est juste pour dire que dire dans ton univers que un héros face à un sous-fifre triomphe systématiquement, et dire quand tu es face à un ennemi, tu jettes un des 10 et de toute façon, avec ton score dans les faits, tu es sûr de triompher, c'est un peu la même chose.
Ouais, en fait, tu as déjà une résistance asymétrique, pour employer des gros mots, qui est dans la formulation purement littéraire de l'univers qui est déjà présente. Quoi. Ouais. Et du coup, la question suivante, on a commencé à l'aborder, on parlait de Donjons et Dragons, d'Aventure Pathfinder, c'est est-ce que on peut utiliser un seul jeu pour gérer un univers vaste. Moi, la question un peu subsidiaire, c'était justement, pour prendre l'exemple de Donjons & Dragons, est-ce qu'on peut faire tous les genres de la fantasy avec Donjons & Dragons ?
Alors, sachant que dans Donjons & Dragons, à la base, c'est un jeu sans univers.
Dans le bestiaire, dans les classes de personnages, il y a un
univers. Il y a un embryon d'univers, d'accord ? Il y a un embryon d'univers, si tu veux le développer, autour de ton village, un petit peu d'heroic fantasy, classique, etc. À chaque fois qu'on sort un univers pour Donjons & Dragons, on sort des règles avec. Et dans ces règles, tu as des éléments qui te permettent d'aborder le genre, la distinction de genre de fantasy.
Ouais, comme Midnight qui est assez gritty, du coup, qui remet le niveau 0 à l'honneur.
Voilà, comme Dark Sun qu'on citait tout à l'heure, qui met un accent sur la survie, qui donne des personnages qui sont très puissants au départ, mais un univers qui est extrêmement mortel, et qui te permet de faire des trucs complètement barrés. Comme
Dawnforge, où tu commences niveau 20, quoi.
Eberron, qui introduit le côté un peu steampunk au sein de Donjons & Dragons. Enfin bref, chaque univers va permettre de faire varier le genre. Et comme le jeu est modulaire, en fait, quand tu joues à Donjons & Dragons, tu joues pas à Donjons & Dragons. Enfin, tu peux jouer en version OSR un petit peu à l'ancienne, mais
en général, tu changes quasiment de système à chaque fois.
Voilà, tu joues le système.
Ou au moins, tu changes de niveau. Il y a au moins, généralement, il y a le niveau de personnage qui va influer, quoi.
Voilà, tu as le système de base, plus le bouquin d'univers que tu choisis d'utiliser, plus le scénario que tu vas jouer.
Plus l'équilibrage, le facteur de puissance,
etc. Etc. Voilà, tout à fait. Et c'est tous ces éléments-là, mis bout à bout, qui vont te permettre de faire une partie et d'explorer ce que tu veux explorer avec le jeu. Du coup, est-ce qu'on peut jouer tous les types de fantasy avec Donjons & Dragons ? À partir du moment où le jeu est très modulaire de cette manière-là, j'aurais tendance à penser que oui. Mais ça implique d'avoir, par exemple, ça implique d'avoir la possibilité d'avoir un livre univers qui va te changer en partie les règles. Et qui peut d'ailleurs bouleverser suffisamment pour te permettre de faire
d'ailleurs,
ça.
D'ailleurs, dans D&D 3.5, le livre de base, il y a les règles pour les mitraillettes. Parce qu'ils ont prévu que tu vas pouvoir vouloir faire du medfan post-apo ou de la science étrange, et ainsi de suite. Donc il y a quand même quasiment dès le départ, bon, 3.5 c'est ancien, mais quasiment dès boîtes rouges, il y a cette volonté de toute façon de gérer tous les genres de la fantasy, surtout à une époque où justement la notion de genre en fantasy n'était pas du tout cloisonnée. En 74, on ne fait pas de différence entre la SF et la fantasy, par exemple. Le blog Grognarda, il explique pas mal ça, c'est un vieux mec de l'OSR qui explique un peu ça. En 74, on s'en foutait, on pouvait... Star Wars, c'est l'exemple typique de non-cloisonnement entre la fantasy et la SF. Quoi.
Non, c'est pas de la SF, donc...
revenir sur ce que tu disais, ça m'évoque Cthulhu, plein d'autres jeux, où chaque scénario contient... Son règle, c'est ses règles. Moi, j'ai vu des trucs avec les règles pour comment choper des escarres en faisant trop de cheval.
Et chaque scénario est un univers, quoi. Le scénario où tu joues dans l'asile psychiatrique.
Ça, c'est un bon jeu. mais tu vois, la question, on peut la porter un peu plus loin. Oui, c'est possible. Mais comme ça implique une certaine dose d'adaptabilité de bricolage, est-ce que ça le fait bien ?
Ou est-ce que t'es pas finalement en train de changer de jeu à chaque fois ?
Ouais, tout à fait.
Ouais, ou te poser des rustines et puis tu te retrouves avec un vélo tout pourri pour monter ta côte, quoi.
Ouais, c'est ça. Finalement, là, on en revient, je suis désolé de vous le dire, au côté système Does Matter. Hein. Est-ce que...
J'ai
fait long. Je suis désolé, mais... Est-ce que... oui, on peut le faire, mais est-ce que ça le fait bien ? Voilà, parce que si on se dit, non, on s'en fout que ça le fasse bien ou pas, si on s'en fout que ça le fasse bien ou pas, on peut tout faire avec tout. Moi, je peux te prendre des règles de donjon et te faire de la SF avec, je l'ai déjà fait, il y a des suppléments qui le font, etc.
Si les joueuses ont des bons mollets, par exemple, pour monter la côte sur un vélo pourri.
Exactement. Exactement. Voilà. C'est très bien dit, je pense. si vous comprenez. Moi, j'ai compris.
Et du coup, on en arrive effectivement à la position inverse, qui est de se dire, si on a un univers vaste, non, il faut plusieurs jeux. Et quels exemples on a dans la littérature, justement, qui le font, quoi. Dans la littérature rôliste.
Ah. On a deux exemples autour de la table.
Moi j'ai copié Thomas, donc.
On a un exemple et demi autour de la table.
C'est ça.
On a toi, Thomas, qui va prendre ton univers de Milvaux et qui va l'aborder par plein d'angles différents, avec à chaque fois un système de règles qui est bien taillé pour ça, ou qui essaye de bien tailler pour ça, qui se veut bien taillé pour ça, ouais. Et qui, dans lequel tu vas justement chercher, d'après la perception que j'en ai en tout cas, à aborder des situations différentes, des modes de jeu différents, avec des règles différentes,
des ambiances, donc des jeux différents,
des ambiances différentes. Et puis, pour l'instant, toi, il n'y a que deux jeux dans ton... Trois jeux. Ah oui, il y a trois avec le...
Trois jeux avec exact. Le jeu du Game Chef.
Ah oui, c'est vrai. Avec le jeu du Game Chef, ça fait trois jeux dans le... Comment ça s'appelle l'univers de Vivien?
Le Rainiverse.
Et oui, car on a l'inventeur du concept ici.
C'est vrai.
Ouais.
Voilà. Trois jeux qui permettent de... Ouais, c'est ça, de jouer des choses différentes et d'aborder l'univers de façon très très différente, quoi. Et pareil, avec des règles qui sont les mêmes.
Et ce qui est marrant, alors du coup je fais un pas en arrière, mais pour mieux revenir, je pense. Ce qui est marrant, c'est que c'est pas la même démarche, je pense, Influenza ou Milvaux et le Rainiverse, que par exemple d'autres exemples. Je reviens sur Cthulhu, parce que Cthulhu, il y a plein de jeux qui sont sortis pour ce même univers. Et j'ai l'impression que dans ces jeux-là, l'idée n'est pas d'aborder un univers selon un angle différent, mais d'émuler de la plus parfaite façon possible. L'interprétation qu'on a du monde de Lovecraft, en fait.
Ouais, c'est-à-dire qu'entre Arctum Cthulhu, où tu refais Cthulhu pendant la Deuxième Guerre mondiale, et Innovable de Christophe Buckley, où on essaye de refaire surtout l'aspect horreur métaphysique, on a une philosophie de jeu, une ambiance qui n'a rien à voir, en fait.
À limite, Arctum Cthulhu, c'est peut-être un contre-exemple à ce que je viens de dire, parce que c'est une autre... on essaye de faire la même chose, mais dans une autre époque, donc il y a quelque part l'idée de varier, là où j'ai l'impression que... Cthulhu, donc Chaosium, ensuite Trail of Cthulhu, voilà. De Gumshoe, ensuite il y a eu un truc avec des dominos où on joue à deux, et que toujours l'idée derrière c'est les jeux précédents n'ont pas réussi à émuler correctement.
Il faut absolument que tu retrouves le jeu avec les dominos.
Ouais, enfin il est pas foufou après. Une fois, moi je l'avais lu parce qu'il y avait des dominos et une fois passé cet aspect là.
Si on se concentre juste sur le côté Appel de Cthulhu et Trail of Cthulhu, ouais, c'est vachement intéressant parce que Trail
of Cthulhu. Tremulus aussi.
Tremulus, ouais, voilà. Le passé un peu périlleux. T'as une version Fate avec. Justement. Non, attends. Je sais plus comment s'appelle la version Fate, mais il y en a une.
Ouais. Fate of Cthulhu.
Ouais, un truc comme ça. les escrocs. pour revenir. Dans l'appel de Cthulhu, tu as un gros problème qui est que si tu rates tes jets de dés, tu rates les indices, donc le scénar tombe à l'eau. Mmh. Du coup, les auteurs de Gumshoe, à travers Trail of Cthulhu, se disent on va créer un système d'enquête qui fonctionne.
C'est presque, on est sur on parlait d'ambiance différente, on est presque plutôt là sur, on est sur des gameplays différents.
Ouais, mais j'ai l'impression qu'en fait l'horizon est le même à chaque fois. Ils regardent tous dans la même direction, mais en prenant des vélos différents pour finir la métaphore. Mais l'idée, c'est que vraiment, on a l'impression que le moteur, c'est la frustration. C'est-à-dire que les jeux précédents n'ont pas réussi, ont peut-être eu des bonnes idées, mais ne sont pas allés assez loin. Et à chaque fois, on essaye de pousser encore plus loin la machine pour arriver à cette espèce d'idéal de...
De rétrécir le focus. Vraiment, on voit que Innomable essaie vraiment de rétrécir le focus sur l'horreur métaphysique, alors que l'appel de Cthulhu était très très large dans son approche, puisqu'on pouvait jouer de l'enquête, on pouvait jouer de l'horreur métaphysique, on pouvait jouer du pulp, on pouvait
faire de l'horreur avec les massacres à la tronçonneuse.
On peut jouer sans le mythe, dans l'appel de Cthulhu, c'est précisé dans le livre de base, au moins là 5.5, pour celles que je connais bien. C'est mis, si vous voulez, vous dégagez Cthulhu, quoi, et vous jouez juste avec des Tommy Gun.
Oui, puis on s'est retrouvé à la fin avec des parapsychologues armés de fusils à pompe, ou des choses comme ça, et c'est vrai que du coup, c'était une certaine ouverture, et là, les gens ont dit non, plus jamais de parapsychologue avec un fusil à pompe, donc je vais faire un système de jeu qui interdit des parapsychologues avec un fusil à pompe, par exemple. Puis après, on a évolué, on a interdit le fusil à pompe, puis la parapsychologue, et on s'est retrouvé avec, je sais pas quoi, mais... plus proche de Lovecraft, potentiellement.
Des dominos.
Ou au contraire, on décale complètement. T'as dit Arctum Cthulhu, je crois qu'il y a un jeu de rôle sur la laverie de Charles Stross.
Absolument, oui, tout à fait.
Qui est en préparation chez 500 de Guy.
Il est en traduction. Il est déjà sorti en anglais.
Ok, ouais.
Il y a d'ailleurs un...
Voilà, donc là, grosso modo, on joue des agents du MI5 contre lui du Cthulhu, pour faire simple.
De la laverie, qui a une section particulière. Alors, j'ai pas lu le jeu. Si ça intéresse des gens, en anglais, il est disponible sur le... Il y a un Humble Bundle en ce moment qui donne des adaptations d'œuvres littéraires. Il y a The Laundry à l'intérieur.
L'ancêtre de cette approche, pour moi, c'est les éditions successives d'un même jeu. Je prends l'exemple, il y a RuneQuest. D'abord, je crois le premier, c'est RuneQuest. Ensuite, il y a HeroQuest. Et après, HeroWars.
Oui, c'est ça. RuneQuest 1, 2, 3. Enfin, voilà, il y a 10 000 versions.
Et en fait, la philosophie, l'ambiance du jeu, la façon dont l'univers est traité va changer, évoluer d'une édition sur l'autre.
Alors, Ça me renvoie à quelque chose que je voulais dire, donc c'est bien comme exemple. Simplement parce que ça va dans ma direction, donc c'est bien comme exemple. Merci. Bon, non, ce que je voulais dire, c'est que justement, à partir du moment où le jeu change de nom, il change complètement d'approche. Ta RunQuest avec le système Chaosium un peu...
Ouais, je crois que tu viens de trouver la pierre angulaire du game design, en fait.
Ouais, je pense. C'est vrai, il suffit de changer de nom. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que les auteurs vont changer le nom du jeu quand ils ont changé d'approche, en disant, voilà, c'est un nouveau jeu dans le même univers, mais c'est plus le même jeu. Alors que les éditions successives, elles, sont censées être plus ou moins compatibles. Et c'est de cette compatibilité que je voulais parler en particulier, pour revenir sur l'exemple que j'ai pris au départ du Monde des Ténèbres. Le monde est ce sont des jeux différents, mais en fait non. C'est le même jeu, mais avec des focus différents dans lesquels tu joues des personnages différents.
Des fois, on essaye de réparer ce qu'on a raté dans le précédent.
Aussi.
Le bon exemple.
Ça, c'est les éditions successives.
Je pique la marotte de Jérôme Largent, mais c'est le jeu Cyberpunk de Mike Pondsmith. Et en fait, il ressort un supplément qui s'appelle en français Écoutez-moi, espèce de tête de nœud primitive, où il explique aux joueuses, aux joueurs, qu'elles ont rien compris à Cyberpunk, qu'elles ont cru qu'on jouait Ken et Barbie avec des gros flingues, alors qu'en fait, on jouait des rebelles contre les méga-corpos, contre le système et tout. En fait, grosso modo, il reproche aux joueuses de jouer plus cyber que punk.
Et du coup, il a fait une troisième édition dans laquelle les illustrations, c'était des photos de poupées Ken et Barbie. Je sais.
Alors, l'humain est fait de contradictions. Et notamment, il avait sorti un jeu qui s'appelait Cyber Generation, où on jouait la génération suivante, qui était justement rebellée contre l'ancienne génération, les anciens PJ, et où ils disaient, ouais, voilà, nos parents, ils ont été trop cyber, nous, on va être plus punk. Enfin, bon, Et du coup, on a cette notion aussi de révolutionner l'univers par un avancement dans un timeline, ce que fait les différentes éditions de Shadowrun, par exemple. Où du coup, ils mettent à jour la technologie du monde réel et puis aussi les prospections de l'ASF ont évolué. Donc forcément dans Shadowrun 1, entre Shadowrun 1 et Shadowrun 5, ça va pas être la même SF en fait, parce qu'il faut qu'on réactualise l'ASF dans Shadowrun 4.
Ils ont découvert le Wi-Fi dans Shadowrun.
Voilà, ils découvrent le Wi-Fi, Ils disent on se rend bien compte que dans le futur les gens vont pas se connecter avec des câbles, ils vont se connecter en Wi-Fi.
Tu perds un des côtés très très cool de l'imagerie de l'univers et
ils sont obligés il faut carrément un reboot. Enfin c'est pas vraiment un reboot, non. C'est pas un reboot, c'est qu'il y a, je crois qu'il y a un gros crash technologique
qui
fait qu'après ils passent au Wi-Fi.
Oui, ça paraît plus un argument commercial qu'un argument créatif, tout ça.
Ce qu'avait fait aussi, il me semble, les Royaumes Oubliés.
Un petit mélange des deux, je pense.
Oui, bien sûr.
En pétant le monde à la 4ème édition, ils avaient superposé deux mondes ou un truc comme ça, histoire de dire c'est plus pareil.
Absolument.
Vampire Requiem,
c'est un vrai reboot.
C'est-à-dire, en fait, on oublie tout ce qui s'est passé dans les 15 000 suppléments de Vampire la Mascarade, parce que l'univers est devenu une baudruche absolument habitable. Et on efface tout et on recommence.
Et on en profite pour changer un peu les règles tout en gardant un peu la même philosophie, etc. Et
un peu la même, mais pas pareil. Je crois que c'est le jeu est plus gritty, notamment, que Vampire la Mascarade.
Et ils vont même continuer avec la deuxième édition de ce truc-là. Enfin bon, bref, ça évolue. Et pour revenir sur mon histoire de changement de nom, moi j'ai l'impression qu'on change de nom quand on veut abandonner l'idée d'une compatibilité, quoi. Et qu'on veut se dire, en fait c'est un nouveau jeu qu'on vous propose, oubliez ce que vous savez, et là on commence à aborder les choses différemment.
Et là du coup, il y a un contre-exemple, c'est les nouveaux jeux Star Wars, où en fait ils ont un système, mais il y a trois jeux. Il y a le jeu Edge of Empires, où on joue des contrebandiers, il y a le jeu The Force Awakens, où on joue des Jedi, et puis il y a un
Age
troisième,
L'Âge de la Rébellion.
Mais en fait, c'est les mêmes mécaniques.
C'est le même système, mais là, on revient au principe du chaque scénario des nouvelles mécaniques. Là, c'est le même système, mais à chaque fois, on rajoute des règles pour la Force, des règles pour le machin. Ils ont fait la même chose, d'ailleurs, pour...
Pour Dark Heresy et Warhammer 40 000, etc.
Et c'est le même éditeur.
Étonnant.
Mais ouais, on a une idée de tronc commun et qu'on va décliner finalement en plusieurs jeux, quoi.
Alors la vraie question,
mais qui sont compatibles entre eux, quoi. C'est-à-dire qu'il me semble que c'est proposé, après j'ignore si ça marche en théorie, que si tu achetais les trois bouquins, tu peux faire ton groupe de PJ avec un Jedi, un rebelle, un contrebandier, quoi.
Est-ce vraiment plusieurs jeux?
Et pour en revenir à Mivo et au Reinivers, vous pouvez développer?
Eh bien, c'était exactement
ce point d'ailleurs.
Merci Eugénie, on avait justement préparé une réponse et Thomas. Non, moi, en tout cas, mon approche, c'était clairement quand j'ai Perdu sous la pluie, c'est un jeu qui est très simple, qui est extrêmement peu développé, assez comme j'ai plastique, quoi, c'est-à-dire que les gens peuvent s'en emparer sans problème, avec deux règles à peu près ou trois, vous êtes des enfants qui vous perdez, il n'y a pas d'adultes et il y a des sirènes qui vous poursuivent dans une ville. Voilà, après le reste on le faisait en cours de jeu, des fois...
Toi t'as un coût d'entrée qui est minimal quoi.
Ah ouais, bah c'était le but, les parties sont courtes, donc je pouvais pas me permettre de passer 3 heures à créer l'univers avec les gens pour ensuite leur proposer une partie d'une heure. Voilà, il fallait que ça aille vite, les règles sont simples, l'univers est simple et zou quoi.
Mais aussi, est-ce que l'univers était peut-être simple aussi dans ta tête à ce moment-là de ta conception?
Ouais. Il allait pas plus loin, j'irais même pas dire... qui s'est étoffé au fil des parties, parce que finalement chaque partie partait dans un sens soit un peu toujours le même, soit dans un sens un peu différent, mais quoi qu'il arrive, il n'y avait pas une cohérence qui émergeait de ça. Donc il s'est étoffé à partir du moment où j'ai décidé de l'étoffer, en fait, quelque part. Il n'y a pas eu d'un coup, je me suis dit, ah mais mon Dieu, enfin peut-être, j'en sais rien, je m'en souviens plus, mais il a fallu travailler dessus, et puis j'ai trouvé des trucs à partir du moment où j'ai commencé à y réfléchir. Quoi. Et alors après, c'est difficile de se souvenir dans quel état d'esprit j'étais, mais j'ai vraiment l'impression que j'avais été séduit par toi, Thomas, du coup, ton approche de niveau, parce que je trouvais ça intéressant, parce que quelque part j'étais, mine de rien, j'ai été fortement influencé par
c'est
le système.
C'est dommage qu'on n'ait pas la vidéo.
C'est ça. Par le système Does Matter. À ce moment-là, j'étais en plein dedans. L'idée que chaque système créait finalement un nouveau point de vue, un nouvel univers, et que du coup, il était possible, comme tu l'avais montré, d'aborder un même univers par d'autres systèmes, et du coup, d'étoffer cet univers, de l'aborder différemment. Et que ça pouvait être intéressant justement pour lui donner un deuxième souffle aussi quelque part, et pas le laisser juste, voilà, j'ai fait mon jeu, ben hop, je vais en faire un autre dans un autre univers, et puis zou, on s'en fout, quoi.
Moi, ce qui m'avait beaucoup intéressé aussi, Thomas, c'était la façon dont tu parlais de Milvaux, comme du mythe de Milvaux, que tu voulais développer, de la même manière que tu avais un mythe de Toulouse, etc. Et que cette construction à travers différentes œuvres, et cette mise à disposition du public de cet univers permettait la naissance de quelque chose de très large, justement. C'était peut-être l'approche inverse, c'est-à-dire, au lieu de se dire, j'ai un vaste univers, je vais l'aborder par plusieurs jeux, c'est, je vais créer plusieurs jeux dans cet univers-là pour nourrir l'univers et l'augmenter, et lui donner une espèce d'existence au-delà de ce que j'ai commencé à créer.
Oui, avec, tu disais, avec, en plus, tous les jeux plus univers sont dans le domaine public. Ce qui fait que n'importe qui peut s'en emparer, et en l'occurrence, c'est malheureusement ce qui arrive. Les gens font des jeux dans le niveau.
Incroyable.
Je pensais pas qu'ils le feraient.
Il y en aurait même autour de cette table.
Ça a commencé, pour paraphraser Patrick Buel, moi je te tiens, je te donne rendez-vous dans 10 ans, parce que... sur la place des grands hommes. Non, un peu sérieux s'il vous plaît, les enfants.
Vous vous rendez-vous que vous m'obligez à payer l'hébergement du site pendant 10 ans là.
Parce que Milvaux, ça a commencé il y a 10 ans, et au début c'était juste le monde s'est pété la gueule, c'est la forêt, et ça n'allait pas plus loin que ça. Et on a fait les premières parties comme ça. Et puis finalement, c'est juste à force de jouer dedans que ça a commencé à devenir une obsession, et puis que ça s'est métabolisé, c'est devenu une espèce de tumeur qui continue à grandir hors de mon contrôle. Mais ouais, voilà, donc c'est le jeu qui a créé l'univers. Et donc je ne serais pas étonné d'apprendre que le Rainiverse, en fait, il y a eu un processus similaire, quoi.
Oui, juste pour dire, il y a quelque chose d'assez fascinant sur l'univers de Milvaux, c'est qu'on parlait de ces univers qui étaient trop parfaits et qui ne laissaient pas forcément la place aux joueurs. Milvaux, c'est un univers dont l'une des règles l'une des règles d'univers...
C'est qu'il y en a pas.
Oui, enfin, en sens, il y en a une, il y a la règle de l'égrégore, c'est-à-dire que c'est la règle de l'importance de la magie, c'est un monde plongé dans une magie, mais qui est extrêmement diverse. En fait, l'autre nom de cette règle qu'on peut donner en tant que rôliste, c'est « Ta gueule, c'est magique » finalement. Et c'est un jeu qui, dans son esthétique même, introduit une règle qui dit finalement « Vous pouvez tout faire avec mon univers ». Et c'est ça aussi qui rend cet univers aussi fertile et qui permet de comprendre que d'autres joueurs, auteurs, MJ, aient pu s'en emparer et s'en emparent encore avec une grande facilité.
Ouais, moi je rebondis dessus parce que c'est aussi ce que j'ai ressenti. Il y a le côté... fuck la logique, quoi, fuck le comment dire, la...
La cohérence ?
Pas la cohérence, mais je pensais en termes rôlistes, l'encyclopédie, qui se veut quasiment scientifique, c'est on s'en fout, quoi. Si on aborde des points de vue différents sur un univers, ça veut dire qu'il y aura des incohérences.
Déjà, dans Perdu sous la pluie, quelque part, leur univers, une partie sur l'autre, il est différent, quand même. Dans Libreté, c'est encore, j'ai envie de dire, c'est encore plus visible, parce que chaque... En fait, toutes les villes d'enfance s'appellent Libreté par une espèce de coïncidence d'erreur orthographique commune, quoi. Pourquoi pas parler des Grégor, justement. Mais chaque Libreté est différente, quoi. Oui. Une fois, ça va être les petits rats d'opéra, une fois, ça va être un parc d'attractions. Et en fait, d'une partie sur l'autre, il n'y a pas, effectivement, il n'y a pas cette notion qu'on avait beaucoup avec les jeux de rôle simulationnistes. Simulationniste dans le sens où on essaie vraiment de simuler un univers, d'essayer que l'univers était le même d'une table sur l'autre, quoi. Alors que là, en fait, il est différent d'une table sur l'autre. Dans Millevaux, il est différent d'un jeu sur l'autre. Parce que Odyssée, en fait, on refait l'Antiquité à Millevaux, alors que non, la timeline de Millevaux, c'est 2400. Et là, on fait l'Antiquité, donc on s'en fout, quoi. Dans Millevaux Mantra, il y a un millier de Millevaux différents, quoi.
Moi, j'ai tendance à voir l'univers de Millevaux comme un voile esthétique qu'on peut jeter sur n'importe quel autre univers. C'est un ensemble d'obsessions et c'est un ensemble d'images, enfin, en tout cas d'impressions esthétiques qu'on peut superposer à nos propres créations. Il y a peu d'univers qui ne peuvent pas recevoir ce voile Millevaux.
Par exemple, il y a un setting, c'est l'autoroute des larmes, qui est sorti chez Dissident, en fait. Que j'ai livré avec un système, on peut presque dire que c'est un jeu, mais c'est un jeu one shot ou campagne courte, qui se passe en Colombie-Britannique, dans le Grand Nord canadien, et autour d'une autoroute où des jeunes hommes et femmes d'origine native américaine, enfin des Indiens, des autochtones, disparaissent en fait. Et on va retrouver l'univers de Millevaux parce que c'est cette influence de la forêt. Et on imagine que c'est la jeunesse et les premiers mouvements de Millevaux. J'avais fait un scénario aussi sur la forêt d'Aokigahara, qui est une forêt au Japon où les gens ont suicidé. Donc là, on a du Millevaux contemporain. Effectivement, on va retrouver cette notion de voile.
Donc, Breaking dit Millevaux, c'est bientôt?
Breaking the Ice, c'est typiquement le jeu qui te propose d'importer l'univers que tu veux, donc tu peux faire Breaking in the Universe, hein, si tu veux aussi.
Là, du coup, ouais, c'est l'inverse, quoi. C'est finalement des règles qui dessinent effectivement une dynamique, et c'est le décor ensuite, enfin l'univers qu'on change à chaque partie, mais en jouant, qui est du coup une dynamique assez différente.
D'ailleurs, à lire tes comptes rendus de partie, c'est quelque chose que tu fais régulièrement.
Voilà, j'ai pas encore fait Breaking in the Millevaux, mais en fait, j'ai fait une espèce de campagne que j'ai appelée Système Millevaux, qui était de tester l'univers de Millevaux avec tout un tas de jeux différents. Et à un moment, il y a une partie qui a été faite avec le jeu Sphinx, où on explore des ruines, mais c'est dans Millevaux, tout ça. Et on voit comment, effectivement, l'univers va se marier avec l'ambiance qui est émulée par le jeu. Alors, je pense que c'est valable par des jeux qui, du coup, sont pas basés sur des univers mais plutôt sur des ambiances. Par exemple, Apocalypse World, bon, c'est post-apo, mais c'est quand même plus une ambiance qu'un univers, donc du coup tu peux tenter un mariage. Je me vois pas faire après, est-ce qu'on pourrait faire du Eclipse Phase Millevaux? Je sais pas, mais après pourquoi pas, tout est possible.
Ah oui, sans difficulté à mon avis.
Ouais, c'est possible. Après, j'ai l'impression que pour le coup Libreté doit beaucoup à Apocalypse World, et notamment dans sa conception d'univers, et c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui transparaît à travers les règles, plus que dans, par exemple, on parlait de Breaking the Ice, quoi. Il y a les règles importent un morceau d'univers avec elles, quoi, et s'impose un peu plus, finalement. Il y a ces histoires de Maelstrom, notamment, il y a la façon dont le jeu est écrit elle-même, influence très fortement la façon dont on va concevoir cet univers, alors que c'est effectivement, dans les faits, il n'y a pas grand-chose, quoi. Connaît des rôles principaux et puis...
Ouais, mais bon, tu vois, le bizarre, moi, il fait penser au Céphale d'Apocalypse World, quoi. Ouais. C'est vrai qu'il y a des tensions, il y a des tensions d'Apocalypse World qu'on va retrouver dans l'ambiance de Libreté, quoi.
Oui, bien sûr.
Donc l'ambiance contamine le jeu, quoi.
Ouais. Oui, tout à fait. Tout à fait, et puis même au-delà de ça, quoi, un certain état d'esprit, une espèce d'acceptation d'une violence qui peut surgir de façon assez brutale d'un coup... et des relations entre personnages qui ne sont pas aussi simplement que dans un jeu de rôle habituel où voilà, chacun a sa place, les gens sont à peu près gentils, sauf le grand méchant qui est méchant. Là, on a des relations un petit peu de pouvoir, un peu tendues. Enfin, voilà.
Et en tant qu'auteur, qu'est-ce qui vous donne envie de revenir dans ces univers-là pour créer des jeux différents? C'est l'opportunité de les approcher différemment? C'est l'opportunité d'enrichir l'univers? C'est la facilité? C'est quoi?
Moi, je vois ça comme un engrenage, en fait. C'était pas un grand désir, enfin, c'était pas un désir du tout à la base quand j'ai créé Perdu sous la pluie. Puis quand tu commences à gratter un petit peu, bah, tu trouves des nouveaux trucs, donc c'est un peu intéressant. Donc tu continues à gratter, tu trouves encore des nouveaux trucs, et puis plus t'en trouves, plus t'as envie de gratter, et plus t'as envie de rajouter des trucs. Et en fait, c'est un peu.
Une maladie mentale qui s'appelle la paraphrénie, qui décrit l'obsession de créer des univers.
Des univers ou un univers?
Enfin, un univers cohérent, quoi. Et donc tu vas retrouver ça à la fois chez Tolkien, mais aussi chez Henry Darger. C'est ouais, cette espèce d'impossibilité de s'arrêter à concevoir un univers, à l'enrichir en permanence. C'est une forme de... Tu vois les gens qui entassent tous les déchets qu'ils entassent dans leur maison, bah, y en a, ils vont les entasser dans leur univers, quoi. Ouais.
On vous donne rendez-vous dans 10 ans.
Absolument.
Bon, bah, on est paraphène, alors voilà.
Ok.
La question qui...
Et du point de vue du joueur ou de la joueuse, en fait, ce qui est intéressant de circuler dans ces univers sous plusieurs formes. Je vais me permettre de spoiler un jeu. Alors, vous mettez sur mute et puis vous reprenez dans 2 minutes. Je vais faire
l'espèce de divulgacheuse.
On va te faire parler un peu, comme ça les 2 minutes vont passer. Et là, tu vas
spoiler. Non, parce que c'est ton jeu.
Merde, parle.
En fait, non, mais du coup, nous, sur notre campagne de Libreté, on avait un enfant qui s'est révélé être une sirène. Et moi, j'ai eu une énorme tendresse pour cet enfant parce que j'avais joué au jeu du Game Chef où on se retrouve dans la peau de ce genre de personnage. Et du coup, en croiser un autre au détour d'une campagne, alors qu'on devrait peut-être en avoir peur, ou il devrait y avoir des trucs, moi, en tant que joueuse, j'avais une grande tendresse pour ça, parce que je savais ce que ça avait fait de son côté, quoi. Et c'est pas forcément fait pour, c'est pas... Enfin, j'imagine que t'as pas fait exprès.
Ah, non.
Mais du coup, ça produit des choses assez chouettes. Et même sans qu'il y ait un auteur pour le faire, nous, ça nous est arrivé dans des campagnes qu'on joue une campagne avec un système. Donc, je prends l'exemple de Chroniques oubliées. On a fait une séance d'influenza au milieu qui comblait une ellipse de temps où on jouait pas nos personnages, on jouait d'autres. Et on a pu à la fois savoir ce qui s'était passé dans la ville où on était pendant ces 2 mois grâce à une autre partie d'un autre jeu, prendre en main la ville en créant nous-mêmes nos quartiers, machin, etc. Ce qui fait que quand on a repris nos personnages, on était chez nous, quoi. Et on a pu nourrir en fait une campagne en ouvrant une porte avec un autre jeu. Pareil sur la campagne de Sur les frontières qu'on a fait ensemble. On a fait une... Alors, vous n'étiez pas là, mais...
Une
partie de la Lune et les 12 Lotus qui nous permettait d'incarner l'adversité, en fait. Et ça aide aussi à nourrir tout le hors-champ, à se sentir chez soi et à avoir une espèce d'empathie pour des gens qu'on doit détester, quoi.
Alors, on peut imaginer que certaines personnes jugeraient ça négativement, de sortir de son personnage pour incarner l'adversité et du coup ne plus être à l'intérieur.
Comme tu fais finalement dans le cadre d'un autre jeu, c'est une sorte de permission qui est donnée, quoi.
Et c'est intéressant de voir que en tant que...
C'est intéressant ça comme idée.
Oui, de
nouveaux systèmes, donc quelque part, bah, c'est moins permission, enfin, en un sens, ça change l'approche.
Permission de créer.
Permission de créer, oui, c'est ça. Non, mais c'est intéressant de voir que finalement, on peut aussi se construire. Et d'ailleurs, je suis à peu près persuadé que ça arrive autour de beaucoup de tables où les gens jouent ensemble depuis longtemps. On va se créer notre propre univers transjeu en abordant et en réintroduisant les mêmes types de PNJ, les mêmes types de thèmes, les mêmes images dans différents jeux qu'on joue, parce que ce sont les mêmes personnes autour de la table. Et ça peut même aller très loin. Moi, je me souviens que je faisais partie d'un club de jeux de rôle il y a très très longtemps qui avait carrément créé une espèce de surjeu où les membres du club avaient leur personnage et ils s'imaginaient, et je sais que ça a été fait dans pas mal d'endroits, ils s'imaginaient en fait que c'était entre guillemets l'âme de leur personnage qui allait incarner le personnage du jeu dans lequel ils jouaient, mais tu avais toujours un lien à cette espèce de méta-campagne qui était la thématique du club. Alors c'était à moitié pour rigoler, à moitié ils créaient des petits trucs.
Il y a Ange Gardien sur Casus Snow qui fait beaucoup ça en fait. Toutes ces campagnes, en fait, c'est un seul méta-perso effectivement qui va se réincarner. Tout chaque jeu, en fait, c'est l'élément d'un multivers, quoi. Ouais. Que tu vas jouer à Chine, à Shadowrun, et en fait, c'est le même personnage, et il a shifté d'un multivers sur l'autre.
Et ça peut être des petits caméos, simplement, d'introduction d'un PNJ que tu as vachement aimé, que tu fais réintervenir en tant qu'MJ ou en tant que joueur. Et donc, l'idée que Jenny mettait en lumière, de prendre un autre jeu pour explorer un autre aspect du même univers, mais sans que ce soit l'auteur, c'est vraiment... voilà, comme c'est des jeux qui permettent de jouer dans des univers relativement variés, hop, on va l'adapter à ce truc-là. Ça renforce cette impression-là et ça lui donne, comme disait Thomas, une légitimité et une permission de le faire. Et à mon avis, c'est quelque chose qu'on devrait peut-être explorer de manière un peu plus poussée.
Oui, il y a un souvenir qui me vient, et ça c'est plus pour Steve, je pense. Je crois que toi, tu as fait jouer au jeu de Vincent Baker où on joue avec plusieurs micro-systèmes de jeu. Je sais plus comment il s'appelle.
Ouais, tu veux parler de Sundered Land,
ouais,
qui est une série de ce qu'il appelle des nano-games. Alors, il classe ça comme un jeu propulsé par l'apocalypse, mais honnêtement, le système est tellement minimaliste qu'on voit pas vraiment la chose.
Et du coup, lui, il a introduit l'idée de carrément changer de système, peut-être avec les mêmes personnages.
Voilà, ce jeu en fait peut être vu de deux façons différentes. Ça peut être vu comme un ensemble de nano-games, de nano-jeux qui se tiennent tous en une page sur un univers extrêmement vague, qui est un univers... de mélange entre du post-apo et de la fantasy. Et l'autre possibilité, c'est d'utiliser ces nanogames en une après-midi de jeu ou une soirée de jeu, où on va conserver les mêmes personnages, mais modifier les mécaniques de jeu de scène en scène. Donc il y a par exemple une scène qui est pensée pour jouer un affrontement, une mêlée de combat, où dans ce cas-là, on va être propulsé dans une bataille qu'on ne comprend pas. Il y a une mécanique qui sert à jouer les scènes où on est autour d'un feu de camp, à se raconter des histoires sur le passé de nos personnages, etc. etc. Et oui, il y a vraiment cette idée qu'une scène est une mécanique.
Et juste, bah, du coup, toi tu y as fait jouer ou pas?
Moi j'y ai fait jouer, plusieurs fois. Et alors, si ça réussit à fonctionner, c'est évidemment que les mécaniques sont à chaque fois extrêmement minimalistes. Et ça fonctionne très bien. Enfin, il y a notamment une... Pour moi, je trouve que la mécanique qui sert à raconter des histoires sur le passé de nos personnages autour d'un feu de camp, c'est quelque chose qui est extrêmement intelligent et qui peut être réintroduit dans beaucoup de campagnes de fantasy.
D'ailleurs, ce qu'on avait fait à Sens, en fait, quand on avait fait une veillée funèbre, on avait utilisé, je sais plus quel système.
On avait utilisé le jeu, alors qu'il y a aussi un nano-jeu qui va venir sur quelques pages, qui s'appelle Midnight Vigil. Et c'est un jeu où on peut jouer à un enterrement en se passant une bougie et en racontant des histoires sur le défunt. Alors, ça nous fait un petit peu rire parce qu'on a l'impression de construire notre image de rôliste hyper hipster avec des trucs extrêmement pointus. Mais au fond, c'est un.
Retourne
c'est
ton placard à immersion et tout ça là, c'est hipster.
Non, mais c'est cette idée de récit où on va raconter des histoires sur un personnage autour d'un enterrement. On voit ça dans des trucs très mainstream de la culture populaire. Enfin, il y a un comics de Batman écrit par Neil Gaiman sur ce sujet. C'est le pitch du scénario de Tomb Raider 5. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'aller chercher au tréfonds de l'expérimentation ludique pour voir ce genre de structure qui fonctionne très bien et qui avait permis de donner beaucoup d'émotions et de donner une densité au dessin d'un PNJ dans notre campagne de Sens.
Ok, bah, je pense qu'on va un petit peu conclure notre discussion.
Parce qu'on n'a plus de batterie.
Voilà, parce qu'on n'a plus de batterie.
On a plein de trucs à dire, mais on n'a plus de batterie.
Julien, il y a un cours de batterie dans le
Exactement, je suis en train de mourir devant vous. Donc puis ça fait une bonne durée. Donc on va conclure. Je vais donner l'occasion de parler des éléments dont vous vouliez parler avant de fermer l'enregistrement.
Mais combien de temps encore?
Deux trois minutes chacun. Je vais commencer en disant que pour moi, un des aspects que j'ai envie d'explorer à travers cette multiplication de jeux pour un même univers, c'est l'exploration de l'idée de créer plusieurs jeux qui soient intenses dans un univers profond, et de manière à réussir à concilier les deux notions. On dit souvent que les jeux intenses sont très focalisés, les jeux profonds sont des univers très vastes qu'on ne sait pas forcément par quel bout prendre, etc. Et bien peut-être qu'en approchant des univers très vastes dans lesquels on prétend qu'on peut tout jouer, mais avec des outils adaptés à chaque fois à la situation en créant des jeux différents, on va peut-être pouvoir y arriver, et ça m'intéresse beaucoup. Voilà.
Wow. moi, ce qui me fascine dans la possibilité de réutiliser des univers de jeu et de se demander quel jeu je peux créer à partir d'un univers, c'est que ça nous amène à avoir un regard de game designer sur les univers, plus qu'un regard d'esthète. Et c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Moi, la notion de chercher les leviers qu'on va pouvoir actionner dans un univers, c'est, je trouve, quelque chose de très fertile, très intéressant en tant que créateur de jeu, mais aussi autour des tables de jeu. Et c'est quelque chose qu'on voit assez peu. Enfin, on s'en souvient. Enfin, moi, je remarque que même dans des univers assez variés, on voit parfois, enfin, quand on laisse des grosses possibilités de jeu aux joueurs et aux MJ, on voit une certaine uniformisation des récits, enfin, de ce qu'on va raconter, de ce qu'on va jouer. Par exemple, entre beaucoup d'univers de fantasy, on raconte toujours un peu les mêmes histoires de groupes d'aventuriers qui vont explorer des donjons et défendre des villages. Et penser, regarder plusieurs fois un même univers en cherchant à chaque fois à zoomer sur des éléments actionnables, c'est à mon avis une façon très très riche d'aborder le jeu de rôle.
Moi, ce que j'aime avec cette approche, c'est que... Mais c'est que une fois que j'ai joué plusieurs fois dans un univers sur différentes approches, je peux plus facilement me considérer chez moi dedans, je peux plus facilement le considérer comme à moi et m'en emparer et créer dedans.
Moi du coup on n'aura pas le temps d'en parler, mais il y avait la problématique de l'affordance qu'on avait soulevé, c'est-à-dire la prise en main de l'univers, des règles, c'est-à-dire si on change souvent de règles, ça posera une problématique de prise en main des dites règles, parce que contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, un système, souvent il y a un apprentissage, et cet apprentissage passe par plusieurs parties.
Ouais, mais en même temps, est-ce que Perdu sous la pluie, c'est pas un excellent tutoriel pour jouer à Libreté juste après, quoi?
Mais au niveau des règles, non, je pense pas, justement. Et même Perdu sous la pluie, on a pu voir que plusieurs parties pouvaient être nécessaires pour justement pousser un peu l'expérience, quoi, et pas juste se contenter d'un premier essai qui souvent est un peu bordélique parce qu'on maîtrise pas, quoi. Maintenant,
il faut que tu fasses suffisamment de parties pour que chaque joueuse ait un personnage qui survécu, oui, pour faire ton Libreté après.
Oui, en plus, c'est pas dit qu'elle. En tout cas, la thématique de l'univers est quelque chose qui m'intéresse et que je compte bien développer, et que j'ai déjà développé de plusieurs façons différentes sur le même univers. C'est un thème majeur.
Donc j'avais deux mots de la fin, en fait. Le premier, c'était par rapport à la permission de créer qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a Influenza dans l'univers de Midvo qui fonctionne sur ce principe-là, c'est-à-dire que on est sur du Midvo émergent, les joueuses ont une grosse part en fait dans la création de l'univers, quoi, à partir de paradigmes de base tels que la forêt, les grégores, etc. Et à la fin du bouquin, je mets aussi l'univers prescrit, hein, c'est-à-dire l'historique, les factions diverses. En fait, ce que j'ai constaté, c'est que les joueuses n'utilisaient pas du tout cet univers prescrit. Elles faisaient uniquement à partir du Midvo émergent. Ce qui m'a invité, en fait, incité à rééditer Influenza en dégageant cette partie univers prescrit et en le décalant dans un autre bouquin qui s'appelle Civilisation, où du coup il n'y a plus que l'historique et les factions sans aucun élément de gameplay derrière, quoi. Et la dernière chose que je voulais dire, hein, moi j'en suis à peu près à une grosse dizaine de bouquins dans l'univers de Midvo, pas que des jeux de rôle, hein, il y a aussi l'Almanach qui va sortir assez prochainement. Qui est une série de maximes qui peut vous inspirer pour développer votre propre niveau, avec des illustrations, tout ça. Il y a des jeux d'univers, des livres d'univers comme Nature et Surnature qui vont sortir. Il y a tous les jeux qui ont été développés aussi par d'autres, ainsi que des nouvelles. Hein. Il y a le porte-bonheur de Dino Van Bett. Dino Van Bett qui a aussi fait une bande originale musicale, hein, pour Milvo, qui s'appelle Night in the Woods. Et j'ai aussi la playlist Milvo, hein, donc j'ai 180 albums dans l'univers de Milvo que je considère étant quasiment un jeu à lui tout seul, en fait, cette playlist. Et ce que je voulais dire, en fait, à ce sujet, c'est que en ce qui me concerne, chaque livre, chaque jeu est finalement le brouillon du suivant. C'est une espèce de fuite en avant ou en arrière des fois, c'est-à-dire qu'il y a des fois j'essaye de retranscrire la première ambiance que j'avais quand c'était encore tout simple, c'était vraiment du post-apo glauque, juste dans la forêt, sans espoir, et puis des moments où, au contraire, je partais dans une direction nouvelle, et vraiment j'en suis à ce stade-là où, en fait, chaque livre est le brouillon du suivant.